Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, tout de suite le sommaire. Jacky Ndala, enfin en liberté conditionnelle pour raison de santé. Si tout va bien, le journaliste quitte la prison centrale de Makala ce vendredi pour l'hôpital. Précision de maître Eric Bisselo, un des membres du collectif des avocats de Jacky Ndala. Vous l'entendrez. L'état des toilettes dans plusieurs écoles de Bukavu, un danger public pour la santé des élèves. La société civile tire la sonnette d'alarme. Dans ces latrines situées dans diverses communes de la ville, les matières fécales et les urines sont visibles, aggravées par l'absence d'eau au robinet. Et puis, nous recevons en invité le député national Jethro Muyombi, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il s'exprime notamment sur la question des pétitions visant certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, bonjour. Le journaliste Jacky Ndala a enfin obtenu la liberté conditionnelle pour raison de santé. Les démarches administratives sont en cours afin qu'il quitte la prison centrale de Makala ce vendredi, si tout va bien, pour l'hôpital, afin d'y être soigné par sa famille dans des conditions dignes de ce nom. Ces précisions sont de maître Eric Bisselo, un des membres du collectif des avocats du journaliste. Il se réjouit de cette décision de la justice tout en regrettant l'état dans lequel son client est enfin rendu à sa famille. Maître Eric Bisselo est joint par Babel Mpongo Massimango.
Effectivement, dans le principe, suite à l'audience qui s'est déroulée le mercredi pour la demande de liberté conditionnelle pour des raisons médicales, il s'avère que la décision était tombée hier soir. Nous l'avons obtenue, effectivement. Cependant, il reste quelques formalités administratives à remplir, notamment via mes confrères et puis sa femme. Et puis, nous allons là, effectivement, voir si la logique de l'État va jusqu'au bout, c'est-à-dire de lui accorder la liberté. Mais bien entendu, son état de santé est assez préoccupant. Il devrait être en dehors de prison Makala ce vendredi. Il doit être hospitalisé dans les heures à venir. Mais il est vrai que l'état dans lequel nous rendent le système judiciaire et les acteurs politiques fait que nous sommes un peu dubitatifs puisqu'il doit être soigné et on ne sait pas s'il y aura des séquelles irréversibles par rapport à son état de santé. Mais dans tous les cas, nous nous réjouissons qu'enfin qu'il puisse être pris en soin par sa famille, par ses proches, dans des conditions dignes de ce nom.
Autre nouvelle, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, l'insécurité refait surface dans la commune rurale de Mangina, située à 30 km de la ville de Beni. La société civile communale parle d'un groupe d'hommes armés qui opèrent dans différents quartiers de cette commune. Mercredi, par exemple, des individus armés non identifiés ont surgi dans un hôtel au centre commercial de Mangina, blessant au couteau un client. Ils ont emporté une importante somme d'argent ainsi que des autres biens de valeur du tenancier et des clients de l'hôtel. La société civile communale appelle à une collaboration étroite de la population avec les services de sécurité en dénonçant tous les bandits armés cachés dans la communauté. Muongozi Kakule Vunyati, président de la société civile du territoire de Beni, explique au micro de Marc Marofimbo.
Pendant que nous sommes en train d'alerter sur la présence de l'ennemi aux environs de Mangina, comme nous le disions que Mangina est sous menace, voilà que aussi en interne, il y a d'autres bandits qui sont en train de déstabiliser l'entité. Cela, nous comprenons que ça doit interpeller les services de sécurité et nous-mêmes de la population. C'est là où nous exigeons la collaboration entre les services de sécurité et nous, la population, pour que nous puissions mettre une barrière contre tout ennemi qui peut arriver à déstabiliser la quiétude de la population à la commune de Mangina.
Les services de sécurité à Mangina affirment avoir mis la main sur l'un des chefs de cette bande des voleurs qui entretiennent l'insécurité dans la commune. Du côté du Sud Kivu, les activités socio-économiques ont repris ce vendredi à Mwenga Centre. Cette reprise intervient au lendemain des accrochages entre deux groupes armés locaux, des affrontements qui auraient coûté la vie à au moins 8 personnes selon des sources locales. Détail avec vous, Ronéline Tibonera.
Ce matin, boutiques, magasins et marchés ont rouvert leurs portes. Le rue de Mwenga Centre, repité animé, hackait à nouveau du monde. Les transports en commun, paralysés mercredi et jeudi, ont repris. Plusieurs mototaximens sont visibles sur les principales artères. Un habitant joint indique qu'aucun coup de feu n'a été entendu depuis hier soir. Pour les opérateurs économiques, cette accalmie est cruciale pour assurer les trafics entre Mwenga et Kamituga d'une part et entre Mwenga et Bukavu d'autre part. Des sources de la société civile confirment que Mwenga Centre est sous sous contrôle de forces armées de la RDC. Hier jeudi, des violents combats ont opposé des groupes Wazalendo dans la zone. L'un des groupes dirigé par le général autoproclamé Nyakaliba s'est opposé à la mesure des autorités provinciales du Sud Kivu visant à supprimer les barrières illégales dans la région. Ces décisions ont provoqué des accrochages qui ont paralysé toutes les activités. Des acteurs présents sur le terrain indiquent que lors de ces affrontements, au moins 8 morts et de nombreux blessés ont été enregistrés. Contacté à ces sujets, l'administrateur du territoire de Mwenga a promis de nous revenir après la réunion avec les parties prenantes.
Rendons-nous dans la province du Haut-Ouélé. Ici, nous apprenons un accident routier qui a fait des victimes à Ouatsa. Nous sommes à plus de 500 km à l'ouest de la ville d'Isiro. Un prêtre catholique tamponné par un camion citerne est décédé sur place. La population en colère s'est ruée sur le chauffeur et son aide, les lapidant à mort. Récit des faits avec Jacques Moukonkole.
L'abbé Emmanuel Mandukisebo a été tamponné par un camion citerne en provenance de la ville d'Isiro. Selon le président de la société civile locale, l'homme de Dieu était en train de traverser la route. En ce moment, arrive un camion citerne roulant à vive allure. Le conducteur n'a pas réussi à freiner, le sol étant glissant à la suite de la pluie. Jean-Pierre Atidri précise qu'après la survenue de l'irréparable, la population en colère a récupéré le chauffeur et son aide et les a passés mortellement à tabac. Acheminés à l'hôpital, le personnel soignant n'a constaté que des corps sans vie, donc 3 morts au total. La société civile condamne la justice populaire et demande à la population de ne pas s'immiscer dans les affaires qui ne relèvent pas de sa responsabilité. Rappelons que l'abbé Emmanuel Mandukisebo avait été ordonné en mars 2008 par Mgr Julien Andavo, alors évêque du diocèse d'Isiro-Niangara. Jusqu'à sa mort, il était administrateur adjoint de la quasi-paroisse de Sainte-Ruth de Kuruwata dans le territoire de Ouatsa. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 48 ans. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, l'état des toilettes dans plusieurs écoles de Bukavu au sud qui vous représente un danger public pour la santé des élèves. Dans ces latrines situées dans diverses communes de la ville, les matières fécales et les urines sont visibles, aggravées par l'absence d'eau au robinet. Cette situation inquiète la société civile qui tire la sonnette d'alarme. Ronéline Tibonera nous en parle.
De nombreuses écoles publiques et privées de la ville de Bukavu ne disposent pas de toilettes propres. Dans le commune de Kadutu, Bagira et même dans certaines écoles de Kabaré, les élèves peinent à se soulager pendant les heures de récréation confinées sur ces locales. Les matières fécales sont partout et l'eau ne coule pas des robinets. Les services chargés de l'entretien des latrines sont inexistants. Ils ne disposent pas des produits nécessaires pour rendre propres ces toilettes. Cette situation expose les élèves à de nombreuses maladies. Pour la nouvelle dynamique de la société civile, il est inadmissible que les membres de la communauté restent indifférents face à cette triste réalité. Wilfried Abamungu, rapporteur adjoint de cette structure, appelle à des actions urgentes.
Nous appelons les responsables des écoles et les promoteurs à prendre au sérieux la question de l'hygiène en milieu scolaire. Il est donc impératif d'entreprendre des actions concrètes pour garantir que toutes les écoles de la ville de Bukavu et ceux de nos différents territoires disposent d'installations sanitaires fonctionnelles et propres afin de protéger la santé des enfants et leur offrir un cadre d'apprentissage sain.
Notez enfin que selon l'UNICEF, en RDC, 12% de la population continue à déféquer à l'air libre malgré les conséquences néfastes sur la santé, notamment celles des enfants.
Nous restons dans les écoles. La rentrée scolaire est encore timide à l'école Oasis située à Kolwezi dans le Lualaba. Cette école privée qui travaille sous la supervision de la division des affaires sociales du Lualaba encadre gratuitement les enfants aveugles et malvoyants. Son coordonnateur appelle les parents à envoyer leurs enfants étudier au lieu de les laisser à travers les rues où ils s'adonnent à la mendicité. On écoute à ce sujet Caleb Mboumb, coordonnateur de l'école Oasis. Il est joint par Jean Gandou.
Oasis est une école spécialisée en écriture braille et informatique adaptée aux enfants vivant avec handicap visuel, donc les aveugles et les malvoyants. Cette structure est la seule qui encadre cette catégorie de personnes dans la province du Lualaba et elle est en sa deuxième année d'existence. Les difficultés sont énormes, notamment la prise de connaissance de celle-ci par les parents qui ont des enfants aveugles. Beaucoup de parents ne savaient pas qu'un enfant aveugle pouvait étudier et qu'il y avait une écriture lisible avec les doigts. Cette écriture en relief pouvait aider cet enfant à s'intégrer dans les milieux éducatif et à être au centre de l'enseignement inclusif. Et nous avons constaté que la rentrée de cette année est très timide parce que les parents ne sont pas informés. C'est ainsi que nous faisons appel à tous les parents de la province du Lualaba. Amenez vos enfants aveugles et malvoyants à l'école chinoise Oasis. Nos portes sont ouvertes et c'est gratuit.
Rendons-nous en Ituri. La période de défense des travaux de fin d'études supérieures et de licence rime avec petit business. C'est le cas de plusieurs universités et institutions supérieures de Bounia, envahies depuis une semaine par des fleuristes et autres décorateurs. Ces derniers vendent leurs produits aux familles des lauréats, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles. Martial Kizabiamungu les a rencontrés. Reportage.
Nous ne sommes pas au marché central des Bounia, mais à l'entrée de l'université publique de la ville Linibou. Ici, des centaines de vendeurs, à majorité des femmes et des jeunes filles, proposent des fleurs et autres objets décoratifs aux lauréats et à leur famille. Des fleurs artificielles fabriquées localement et à la portée de toutes les bourses. Jeannette Kavira, la trentaine, effectue ses travaux saisonniers depuis plus de 10 ans, ce qui lui permet de faire scolariser ses enfants.
Je vends les fleurs. C'est pour prouver quelque chose qui m'aide de faire étudier mon fils à l'université.
Annie, décoratrice, indique que ce métier contribue beaucoup dans la résilience de plusieurs femmes de Bounia. Elle appelle d'autres à leur emboîter le pas et à se lancer dans ces petits commerces plutôt de rester à la maison.
Aux mamans qui manquent du travail, qu'elles viennent et ne peuvent pas mourir de faim.
Cependant, certains pensent que ces fleurs ne suffisent pas seules pour honorer un lauréat. Petit Bénol, toutefois, certains habitants reprochent à ces vendeuses de fleurs artificielles et décoratrices de contribuer à l'insalubrité de la ville, avec des tas de déchets abandonnés sur les trottoirs. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le trafic est de nouveau interrompu à la hauteur du pont Boundoué. Nous sommes dans le territoire de Bukama, province de Olomami. L'administrateur du territoire a annoncé la suspension pour 5 jours à dater de mercredi 17 septembre. D'après l'administrateur, durant ce temps, les agents de l'Office des routes travaillent pour remplacer les traverses et les tôles qui soutiennent ce pont. Du coup, plusieurs véhicules sont à nouveau positionnés de part et d'autre du pont. En attendant la fin des travaux, ces véhicules viennent pour la plupart part de l'espace Grand Kassai à destination du Haut-Katanga et vice-versa. Ils transportent des marchandises et des passagers. Santé. Près de 500 personnes ont déjà été vaccinées contre le virus Ebola à Boulapé, dans le territoire de Mweka, province du Kassai. Ce, depuis le lancement de la campagne de vaccination dimanche dernier. C'est ce qu'a fait savoir hier l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, les doses de vaccins sont administrées en priorité aux personnes ayant été en contact avec des malades, ainsi qu'au personnel soignant. Écoutez à ce sujet le docteur Sheila Nsasirwe, responsable des urgences sanitaires pour l'immunisation au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, propos recueillis par Stanislas Diumi.
Le pays a également reçu 2000 doses supplémentaires auprès du groupe international de coordination de la vaccination et cela a permis de s'assurer que la vaccination de la population à risque s'est assurée rapidement afin d'éviter la propagation. La vaccination a été lancée le 13 septembre à Boulapé où la plupart des cas ont été notifiés. Les approches vaccinales utilisées sont connues. Nous ciblons particulièrement les contacts des personnes ou les contacts probables ou des personnes qui pourraient entrer en contact avec les personnes infectées et nous travaillons également particulièrement avec les travailleurs de première ligne et le personnel de santé. Hier, près de 284 prestataires de soins de santé ont été vaccinés à Boulapé et à Maïka et 307 contacts et contacts probables à Boulamba et à Boulapé ont été vaccinés. En tout, près de 491 personnes ont été vaccinées. Nous avons 45 000 doses supplémentaires attendues et ces doses devront arriver au cours des 2 voire 3 prochains jours.
Actualité internationale.
Nous sommes au Cameroun. C'est la consigne de vote que personne n'attendait. Brenda Biya, l'unique fille du président Paul Biya, appelle dans une vidéo devenue virale à ne pas voter pour son père lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Elle affirme que son père a fait beaucoup de mal au peuple. L'affaire embrase les rangs du pouvoir. Paul Biya est candidat à sa propre succession au scrutin qui pointe à l'horizon. Dans une vidéo, Brenda Biya, 27 ans, fait une longue énumération des mauvais traitements dont elle dit souffrir. La jeune femme déclare, je cite, « Ne votez pas Paul Biya, il a fait souffrir beaucoup de gens, y compris sa propre famille. J'espère qu'on aura un autre président. » La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français, a appris l'AFP vendredi des sources diplomatiques françaises. Les deux diplomates membres de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris ont été déclarés persona non grata et ont jusqu'à samedi pour quitter le territoire, a déclaré cette source. Le 15 août, la junte militaire au pouvoir au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des troubles politiques en proie depuis plus d'une décennie à des groupes djihadistes, avait annoncé l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour le service de renseignement français. Les autorités du président Assimi Goïta avaient accusé des États étrangers d'être derrière une tentative de déstabilisation des institutions menée par un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne. Le ministère français des Affaires étrangères avait donc dénoncé des accusations sans fondement et demande la libération sans délai de son ressortissant membre de l'ambassade de France.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons comme invité le député national Jethro Muyombi, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Il s'exprime notamment sur la question des pétitions visant certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga propose aussi des solutions pour mettre fin à l'instabilité observée tant au gouvernorat de cette province qu'à la mairie de la ville cuprifère. Jethro Muyombi s'entretient avec Alain Rongmushinji.
Monsieur le député Jethro Muyombi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
La session de septembre s'est ouverte le 15 septembre dernier sur fond de tensions avec des pétitions visant certains membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. Que faudrait-il, selon vous, pour que cette session, qui est essentiellement budgétaire, soit apaisée?
La première des choses pour que la session de septembre soit apaisée, c'est ce que tout le monde doit comprendre, que il y a les instruments d'épée, c'est entre autres la loi. Nous avons, par exemple, au niveau de notre assemblée, le règlement intérieur. Il faudrait qu'on accepte de le respecter. La démocratie aujourd'hui, nous avons la constitution qui est un instrument aussi de travail au niveau de l'assemblée. Si on respecte tout cela et que tout se passe tel que le veut la loi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le changement, c'est un fait. Il peut être positif ou négatif, mais c'est un fait, ça peut arriver. Ça ne peut pas être la fin du monde. Et comme nous sommes dans la démocratie, il est vrai que la question de pétition est là. Il faudrait seulement que ça soit traité comme ça doit être traité. Et après ça, ça sera déposé dans une plénière et puis les députés vont pouvoir voter. Et lorsqu'ils vont voter, il faudrait qu'on accepte les décisions qui ressortent de ces votes-là. C'est ça même la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie. Et les mettre en application correctement et puis tout ira très rapidement.
Vous revenez des vacances parlementaires. Quels sont les principaux problèmes dans votre circonscription électorale de Lubumbashi?
Le problème, il y en a autant, mais on peut peut-être épingler quelques-uns qui nécessitent des actions urgentes. C'est notamment la question de l'insécurité, par exemple, les braquages et tout ce qu'il y a comme les enfants de la rue qui augmentent encore ces derniers temps. Il y a le problème de août aussi. Nous sommes pendant la période sèche, mais bientôt, c'est la saison de pluie. Il y a un sérieux problème avec autant de routes qui connectent la ville, mais aussi les routes des dessertes agricoles aussi tout autour de la province.
Parmi les problèmes qui dérangent la province du Haut-Katanga, il y a cette instabilité tant au niveau du gouvernorat que de la mairie de la ville de Lubumbashi. Quelles sont, selon vous, les solutions durables pour mettre fin à cette instabilité?
Oui, ça c'est une réalité. Il y a les problèmes au niveau du gouvernorat, il y a les problèmes au niveau de la mairie. Quelles sont les solutions? Moi, je pense que ce sont des choses qui doivent se discuter au niveau de notre famille politique, donc au niveau de l'Union sacrée. Une orientation claire doit être donnée par la haute autorité de notre famille politique. Et tout ce que je vais demander, c'est que aussi tout le monde doit être correct et honnête et suivre l'orientation donnée par l'autorité de la famille politique. Parce que vous ne pouvez pas être dans une famille politique où vous vous permettez de faire des choses qui ne corroborent pas avec la vision de celui qui est le responsable de la famille politique. C'est comme dans une maison, il y a un père et c'est le père qui doit édicter la ligne de conduite de cette famille-là. Et tous les enfants, tout le monde, même ceux qui ne sont pas enfants, qui habitent là, doivent suivre cette ligne de conduite. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau-là que les choses doivent s'orienter clairement.
En quoi a constitué votre restitution à votre base sur les principales lois votées au cours de la session de mars dernier?
La session de mars passé était essentiellement sur le contrôle parlementaire. Il y a eu autant de questions orales avec débat essentiel. C'est un certain nombre de lois qui ont été aussi adoptées, votées, parmi lesquelles nous retenons la loi de la programmation de la police, qui permettra au ministère des Affaires intérieures de pouvoir recruter, former les policiers, de pouvoir doter les policiers, de pouvoir renforcer cette question de la sécurité au niveau de l'intérieur de notre pays. La ville a sérieusement connu un épanouissement, elle s'est agrandie, alors qu'aujourd'hui nous n'avons que la cartographie très ancienne, mais aussi qui ne permet pas facilement même à la police, lorsqu'ils doivent intervenir de très loin, peut-être qu'ils ne retrouvent pas les adresses correctement et il y a un problème des routes pour accéder aussi sur les liens.
Monsieur le député Jethro Muyombi, je vous remercie.
Merci Monsieur Yerong.
L'élu de Lubumbashi répondait aux questions de Alain Rongouchinj. Par ici prend fin ce journal supervisé par Lievin Mwingavubu, coordination de Jean Gandou, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.